belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
Pour cette belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de retrouver un homme que vous êtes nombreux à connaître, un homme de la gratitude, dont on peut dire que l'éthique de sa vie tout entière est une éthique de la gratitude. La semaine dernière, il nous a parlé de son enfance, de sa jeunesse, de ses études pour finir juste avant son mariage par un retour des États-Unis. Nous le retrouvons aujourd'hui pour parler de ses années au service de l'Évangile. Bonjour Michel Fréchet.
Bonjour Nathalie.
Michel, comme on a été un tout petit peu bavard, je comptais finir notre émission par le 27 juillet 1957, date que vous ne pouvez pas oublier, puisque c'est la date de votre mariage à Dieulfi, Michel. Civil à la mairie, puis religieux au temple. Je vois très bien où il est, le temple, sur la petite place de Dieulfi. Je connais vraiment bien. Qui est présidé par le père de Mizou, qui était pasteur à Dieulfi. Comme tous les événements dont on a parlé dans la première émission, cette journée, elle est toujours extrêmement présente dans votre esprit.
Bien sûr. On ne peut pas oublier.
Hein, quelle campagne, dans les 50, ça fait plus de 70 ans que vous la connaissez.
Ah ben, j'ai connu en 1950, vous voyez, j'ai pris pour la première fois dans le camp, qu'on a vécu là, dans l'Aveyron, la Corrèze, le Lot, c'était, on appelait ça l'Ocaro, Aurillac, Ocaro, Cahors et Rodez.
Et comme vous nous l'avez un peu dit en fin d'émission, donc vous êtes fraîchement marié à Dieulfi, et puis très vite vient le service militaire dans une période qui est quand même plus que troublée, puisque nous sommes en 57, les événements d'Algérie se déroulent depuis 54, 57 commence à devenir vraiment très extrêmement violent. Quels sont les sentiments qui vous ont étreint à ce moment-là? Vous avez pensé, par exemple, à être objecteur de conscience
Oui, c'est vrai.
Pour vous, c'était pas possible la guerre, c'était pas possible.
C'était avec ce qu'on avait vécu, vous voyez, pendant la guerre, et que les nouvelles qui nous arrivaient d'Algérie, et les atrocités qui étaient commises, certes, du côté des Félagas, des choses, mais aussi finalement de la répression française, c'était insoutenable aussi. Et ça posait un gros problème de conscience, quand même. Vraiment. Là, je trouve que la France a manqué une faute considérable. Ne pas avoir reconnu l'identité vraiment algérienne, etc. Et il y avait pourtant en face de nous un homme, c'était Farhad Abbas, qui était un homme qui aimait profondément la France, dont d'ailleurs son épouse était française, sauf erreur, et avec qui, me semble-t-il, il aurait fallu plus qu'engager le dialogue. Et là, on a manqué vraiment, à mon sens. C'est dramatique.
Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le plaisir de recevoir Arlette Daumont qui parle de ces années-là. Et elle, en 54, elle arrive en France. Elle quitte l'Algérie et elle arrive. Louis Daumont, son époux, est pasteur à...
Jean Daumont, pasteur
à Clermont-Léraud. Et elle me dit, Nathalie, j'étais contente d'être là, de ne pas être retournée, parce que je ne sais pas quelle femme je serais devenue si j'étais restée sur les territoires. C'est un très beau moment de partage avec Arlette qui nous en parle très, très, très fortement.
Ma femme aussi était d'origine. Elle a passé tout. Son père était pasteur en Algérie. Et son grand-père aussi. Donc, il y a des liens familiaux très forts avec l'Algérie du côté de mes beaux-parents.
Qu'est-ce qui a fait que quand même, vous ne devenez pas objecteur de conscience?
Eh bien parce que je pense que j'avais mon épouse, on ne pouvait pas faire subir aussi. Bon, mais en même temps, plus que ça, il y avait le sentiment que il faut aussi, dans un monde où malheureusement il y a des réalités, la résistance quand même c'était pour moi, c'était pas de l'objection de conscience. Voyez. Et pourtant, au Chambon-Soulignan, mes deux pasteurs étaient des objecteurs objets de conscience, André Trogmé et Louis Tête. Donc non, j'étais habité aussi par ces deux courants, vous voyez.
Bien sûr.
Et entre les deux, bon voilà, on est là.
Vous faites vos classes aux Andelys pendant deux mois, et puis vous partez en Algérie. Donc là, vous n'êtes plus seulement jeune marié, vous êtes jeune papa.
Oui, justement, je pars au moment où mon aîné venait de naître. Ouais. C'était dur.
Ouais. Et puis c'est, d'ailleurs, il y a trois enfants qui vont venir très vite.
Très vite,
très,
oui.
Très vite. Oui. Et une fois en Algérie, vous devenez aumônier en remplacement d'un qui est en déplacement ou en...
Oui, c'est-à-dire que les jeunes étudiants en théologie avaient la possibilité de candidater pour l'aumônerie, alors aumônier auxiliaire.
Oui.
Mais c'était un lieu aussi où j'ai appris beaucoup. Hein.
Et le fait de devenir aumônier fait dire à un lieutenant, que je cite, que vous avez vécu la guerre par le petit bout de la lorgnette.
Oui. C'est pas faux. Hein.
Oui. Voilà, c'est la question. Vous avez vraiment ressenti ce qu'il dit.
C'est-à-dire que de son point de vue, je le comprends.
Oui.
Oui,
mais vous partagez quand même.
Parce que voilà, en fait, je n'ai. Vous savez que c'était dur.
Bien sûr.
Je suis resté deuxième classe. C'est assez dur. C'est peut-être plus difficile de rester deuxième classe que de devenir sergent ou de à l'armée. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire. Pourquoi ce Michel Fréchet, il s'entête à rester... Les gens ne comprenaient pas très bien. Et donc, je suis propulsé à l'aumônerie. Évidemment, c'était un lieu aussi, il faut bien le dire, j'avais pas les corvées, j'avais pas les tournées de la même façon, mais j'accompagnais évidemment les militaires dans les missions. Hein.
Mais vous aviez tous ces jeunes appelés qui se sont retrouvés en Algérie, toute cette génération-là.
Oui.
Et tous, et on le voit même dans le cinéma, hein, ce qu'on en voit dans J'avais 20 ans dans Les Horaces, etc., se sont retrouvés face à une violence auquel ils ne s'attendaient pas du tout.
C'était terrible.
Puisque bon, la guerre de 40 n'avait pas été du tout la même, hein. Il n'y avait pas eu cette confrontation. Ils ont tous vu des potes mourir. Et ça, en tant qu'aumônier, il devait bien avoir envie de vous en parler, de l'échanger. Donc même si vous n'étiez pas au front directement, vous aviez la parole de tous ces hommes. Vous la receviez.
Et bien sûr, on sentait, c'était besoin. Alors il y avait en plus les nouvelles. Je n'ai jamais été confronté directement. Dans des bagarres, dans des embuscades.
Bon,
j'ai échappé à tout ça, c'est vrai.
Oui.
Bon, j'étais dans des convois où ça aurait pu arriver, naturellement.
Oui, bien sûr.
Parce que dans les Aurès, c'était assez fréquent. Mais moi, ce qui me... le poste était assez privilégié dans le sens que, si vous voulez, quand... l'aumônier a un statut particulier. Il a le même grade que celui auquel il s'adresse. Il s'adresse à un capitaine, vous avez...
Le capitaine.
Le général, vous trouvez... Autrement dit, j'étais invité. Moi qui étais deuxième classe, vous voyez, tout d'un coup, donc je me retrouvais à la table des officiers, là où j'arrivais, tu vois. Et j'ai appris quelque chose, là. Je me suis rendu compte quand même que les officiers, d'une manière générale, avaient un grand souci de leurs hommes. Ça m'avait frappé. Par contre, les sous-officiers...
Pas pareil.
C'était pas pareil. Mm-mm. Je veux pas dire un jugement global, mais c'est le sentiment que j'avais. C'était que... Peut-être parce que vous voulez jouer les... Je sais pas.
D'ailleurs, ce statut d'aumônier vous permet aussi d'avoir un logement hors de la caserne. Donc, Et c'est cette possibilité... qui fait que votre priorité, c'est de faire venir Mizou, qui vous manque terriblement, comme votre premier enfant. Comment s'est déroulée cette installation familiale en temps de guerre? Ça ne devait pas être simple pour elle?
Non, parce qu'il a fallu chercher un appartement. Et alors, vous savez, à ce moment-là, les appartements étaient très chers. Et c'est vrai qu'il y avait là des abus. Si bien que l'armée même avait dit qu'il fallait, quand même résister et faire venir des professionnels pour... que les prix
encadrer
tout ça. Bon, moyennant quoi, on a pu être logé très
modestement,
correctement,
c'est ce que raconte Arlette. Et puis bon, on a parlé de Camus avec Arlette Daumont. Quand on parle de la pauvreté dans la paysannerie, quand Camus raconte les enfants dans Misérables, on s'aperçoit que entre les populations dans les villes et les populations des campagnes, il y avait vraiment une grosse différence.
Oui.
Vient la fin du service militaire en Algérie, qui sera un peu avancée puisque Mizou est enceinte de son deuxième enfant.
Oui.
Donc, quand on est papa de deux enfants, on n'est plus, on devient libérable.
Oui,
c'est ça.
Libérable. Mmh. Alors, le service était à ce moment-là de deux ans, mais quand même, j'ai fait quand même 26 mois quand même. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait jusqu'à 30 ou 35 mois. Ce qui m'a permis de reprendre
les études.
J'avais lâché 3 ans plus tôt, hein, à Montpellier.
Ça a été difficile de reprendre, justement.
C'est-à-dire qu'il y avait...
Retourner à la fac de Théo.
Oui, avec deux enfants, et bientôt trois.
Bientôt trois.
Alors, ça a été un peu de sport. Et je dois leur dire quand même ici, rendre hommage, de particulier à mon épouse. Parce qu'alors, Mizou, c'était... Vous vous rendez compte, c'était...
Trois petits, deux ans.
Bon, les conditions, on a manqué de rien. Hein. Mais disons que ce n'était pas forcément facile pour elle. C'est tout. Mais enfin, on n'était pas les plus à plaindre, quand même.
C'est des années heureuses, ce retour de la fin de la guerre d'Algérie. C'est des années que vous... Par exemple, la paternité de ces trois petits, même si elle s'en Mizou, vous en occupiez quand même beaucoup ou vous étiez plus...
Moi, j'aimais beaucoup m'occuper des enfants, des petits, j'ai toujours aimé. Oui, je participais autant que je le pouvais parce que quand même, ils avaient du retard parce qu'il fallait que je rattrape des cours que... C'était 3 ans après. C'était... Et tout ça, quand même, avec forcément la petite famille qui était là, qui, de toutes les façons, prend du temps. Oui. Mais écoutez, j'avais parmi mes camarades un qui habitait près de Lunel. Il venait chaque jour en mobylette. Bon, il avait 6 enfants.
Ouais. Donc.
C'était pas la guerre d'Algérie, mais vous voyez, je veux dire, il faut toute proportion gardée. Vous voyez que c'est.
Il faut remettre chaque chose. L'église au centre du village.
Oui.
Je voudrais parler de ce que vous racontez qui arrive le 9 avril 61. Donc c'est. Vous présidez le culte du dimanche de Quasimodo. Peut-être expliquer ce que c'est que le culte du dimanche de Quasimodo.
C'est le dimanche d'après Pâques.
Voilà. Et là, il y a aussi un très beau portrait de cet été familial, le 2 juillet. À partir du 2 juillet, quand vous passez, vous quittez Montpellier pour un bel été familial. Mais avant de partir, vous faites baptiser vos 3 enfants par le pasteur pèlerin.
Oui.
Voilà, encore un. Vous vous promenez beaucoup durant cet été 61 avant d'arriver au Chambon-sur-Lignon.
Oui.
Pour votre stage de fin d'études. Cette année, vous en parlez, 61-62, d'ailleurs là, c'est la fin de la guerre d'Algérie, comme d'une année charnière. Oui. En quoi c'est une année charnière, cette année-là?
Parce que c'est une année, si vous voulez, entre les études proprement dites, et puis l'année où vous prenez contact avec une paroisse, pas tant que paroissien, si, certes, aussi comme paroissien, parce qu'on est toujours paroissien, quand même, on n'est pas ça, mais pas en responsabilité totale non plus, puisque vous êtes auprès d'un pasteur qui vous accueille et qui vous forme dans le concret du ministère pastoral. Vous voyez? Donc c'est ça, quand même, il y a cette année. Et là, pourquoi j'ai beaucoup appris? Parce que j'étais avec le pasteur Lelièvre, qui était un homme aussi merveilleux, c'était un spécialiste de l'Ancien Testament, qui avait un copain qui s'appelait Alphonse Maillot, que dans le milieu protestant, beaucoup de gens connaissaient aussi. Et donc, j'ai eu la chance de faire mon stage avec lui, qui était un homme très rigoureux, talentueux, un très bon prédicateur. Mais alors, il m'a impressionné parce que il m'a dit toujours, ne fais pas comme moi. Mais lui, il préparait ses prédications. C'était un très, très bon prédicateur. Sur un petit bout de papier comme ça. Hein. C'était, mais c'était travaillé.
Il
n'était pas dans l'improvisation. Ah non, surtout pas. Et mais il me disait, ne fais tout pas ça. Et même Karl Barth disait toujours aussi qu'il fallait écrire ses prédications.
Donc c'était. Encore une belle rencontre.
Oui.
Avant de partir à Épinal, il y a une question quand même que j'aimerais vous poser, parce que là, donc, on va partir à Épinal avec vous, ça va être la consécration de votre ministère. Michel, il y a une chose qui est quand même assez dingue dans le bouquin. Vous m'avez confié que vous n'aviez aucune note, aucun journal. Comment vous arrivez à être aussi précis dans les détails, dans les rencontres, dans les endroits, dans les... c'est fou d'avoir ça, d'avoir cette mémoire... En plus, vous me dites, vous l'avez écrit, vous l'avez commencé il y a 10 ans, d'écrire
oui,
ça même pas.
Exactement,
quoi.
Il y a 84. Ouais, ouais. Écoutez, tout le monde me le dit. Et moi, je dis, mais écoutez, moi, je vous assure, je n'ai pas une mémoire meilleure que les autres.
Que
mais
ça.
Par contre, non, parce que. Alors, par contre, ma femme est capable, elle, elle a un répertoire de chants, de paroles. Alors, les mémoires d'aujourd'hui, bon, ça faiblit avec l'âge.
Ouais,
hein,
ouais.
Mais là, alors. Je suis ébloui. Et les poèmes, les poésies, alors ça, je suis incapable.
Mmh.
Et pourquoi? Alors, il y a une date, je vous l'ai dit, j'ai une mémoire des dates.
Des dates, qui sont des repères.
Des repères. Et au fond, ce n'est pas tellement difficile. Parce que vous voyez, avec l'enfant, je vois très bien les choses. Et au fur et à mesure de l'écrit, je vois les dates. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais très vite, vous voyez, moi, je vois des images, des rencontres, des émotions, des riens, des petits riens, mais qui tout d'un coup font surgir du fond
de votre mémoire, des
personnages, des lieux, etc. Et tout ça prend vie.
Mm-hmm.
Et j'ai construit là-dessus.
Vous l'avez écrit à la main, Michel, ou vous l'avez tout de suite tapé à l'ordinateur?
Oui, heureusement. Je crois qu'à la main, j'aurais pas pu parce que j'écris comme un chat. Et donc, par conséquent, c'est tellement, raturé, etc.
C'est pas vrai, vous avez une jolie écriture. Vous avez une petite écriture, mais c'est pas vrai que vous écrivez comme un chat. Vous avez une jolie écriture. Michel, on va faire une pause musicale avec Jean-Sébastien Bach, la cantate BWV 57, qu'on écoute tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans une belle rencontre que je vous propose avec Michel Fréchet. Et j'en profite pour saluer Yann à la technique, accompagné de Léonie au joli prénom et aux jolis cheveux roux. Léonie, je la vois dans un portrait de Suzanne Valadon, dont on parlait ce matin. Merci à tous les deux de nous accompagner, en tout cas, dans cette interview. Michel, la troisième partie du livre commence en 62. Donc vous avez 32 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants et vous arrivez à Épinal. Comment se déroule cette arrivée à Épinal, Michel Fréchet ?
Écoutez, c'est absolument l'imprévu, parce que c'est une région que je ne connaissais absolument pas. Je découvre donc une ville, avec ma famille, qui est en pleine effervescence. Et il était le 3 octobre, le 4 octobre exactement, le 4 octobre 1962, effectivement, et c'était 8 jours avant l'ouverture du Concile Vatican II, qui avait été donc annoncé par le pape de l'époque, Jean XXIII, comme étant un concile d'ouverture, finalement. Et effectivement, contrairement aux autres conciles, ils ont été invités des observateurs des autres confessions chrétiennes, et en particulier protestantes, et qui ont pu suivre de très près le dialogue. Et je me souviens que lorsque le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, qui était le pasteur Wissertuft à l'époque, qui a été une grande pointure du Conseil œcuménique des Églises, est entré en tête du cortège des observateurs, et il a dit cette fois-ci, Nostra res agitur, cette affaire nous concerne.
On va en parler longuement, On va en parler de l'œcuménisme, parce que c'est une question que je voulais aborder avec vous. Au niveau d'Épinal, vous êtes loin de votre sud natal. Vous avez aimé cette ville ?
Ah oui ? Oui, bien que nous étions fort étrangers. Il a fait les deux premières années ont été extrêmement froides. Donc, pour les méridionaux, nous étions. Mais c'était un froid sec. Oui. Mais si froid que la Moselle qui traverse la ville était gelée pendant 30 jours. Et même le lac de Gérardmer était si profondément gelé qu'il y avait des courses de voitures, sinon de camions, sur ce lac.
Et l'église réformée des Vosges, vous l'avez tout de suite sentie très différente de celle que vous aviez dans le sud ou
Oui et non. C'est-à-dire, il fallait s'adapter un petit peu à la mentalité, je mets entre guillemets, parce que c'est pas péjoratif de dire ça.
Vous avez été très bien accueilli, vous le dites que vous êtes bien
accueilli. Ah oui, très très bien accueilli. Vraiment, là, par la communauté. C'est vrai, c'était une communauté quand même qui était assez importante, mais relativement récente, qui datait des années 1870, au moment de lorsque l'Allemagne s'est emparée de l'Alsace. Et donc, les industriels, et en particulier les industriels protestants, ont reflué, ces gros industriels, sur les Vosges. Et comme ça qu'a été créé, au fond, ces communautés protestantes, et il y avait 5 communautés protestantes dans les Vosges, on appelait ça le quintet vosgien, les 5, dont Épinal.
Tout de suite, à peine arrivé, vous vous plongez dans la vie paroissiale, vous êtes heureux de cette vie paroissiale, et c'est là où vous avez les premiers mots sur les relations œcuméniques. Alors, Michel, je sais bien que nombreux des auditeurs qui nous écoutent savent ce que c'est, mais est-ce que vous pouvez redéfinir pour nous ce que c'est que l'œcuménisme ?
L'œcuménisme, si vous voulez, c'est répondre à une exigence, je dirais, de l'Évangile, selon laquelle, ce sont les mots de Jésus, l'unité fait partie du projet, je ne sais pas si vous dire, ecclésial de Dieu, de la communauté, c'est-à-dire l'unité de l'Église. Si vous êtes en constante opposition au sein de l'Église, vous ne rendez pas un bon témoignage à l'Évangile. Et donc, l'œcuménisme, le mot lui-même vient d'un mot grec, oikoumene, qui signifie toute la terre habitée. En fait, là, il s'agit bien de toute la terre habitée, de toutes les églises, donc du monde. Ils sont appelés donc à vivre cette unité dans la personne du Christ. Or, hélas, l'histoire montre, d'ailleurs dès les débuts de l'Église, que cette unité, c'est pas évident, et que si souvent il y a des divisions. On le voit même dans l'Évangile, quand vous lisez, surtout les lettres de l'apôtre Paul, où déjà on sent la division qui est là. Et chaque fois, il y a un rappel, j'allais dire presque à l'ordre, pour que les églises retrouvent cette communion fraternelle entre les églises.
C'est plus qu'un combat pour vous, c'est une ligne directrice dans votre vie, ça. Pour œuvrer à l'œcuménisme entre les religions, c'est déterminant.
Alors, c'est vrai que mon parcours, vous voyez, je suis né dans un village, on le disait tout à l'heure, catholique, mais finalement, donc, j'étais imprégné de tout cela. Et justement, nous avions aussi entouré d'amis aussi que nous aimions bien, qui étaient catholiques, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui nous étonnaient en tant que protestants, qui nous étaient difficiles d'accepter, c'était pas tellement les personnes finalement, c'était plutôt ce qui était, on dirait, les doctrines, les dogmes de l'Église officielle qui nous étaient difficilement acceptables.
C'est à Épinal aussi que se déroule la reconnaissance officielle de vos ministères, le 4 janvier 64. Oui. Vous êtes consacré. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être consacré?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance du ministère par la communauté locale, par l'Église en général. Et donc, c'est compter sur cette communauté qui vous porte déjà, donc il y a une reconnaissance, donc c'est important. Et c'est aussi pour le pasteur, c'est reconnaître la communauté qui nous est confiée.
C'est une émotion d'homme aussi, le jour où on est consacré, c'est quelque chose qui est bouleversant pour un homme ou c'est un chemin?
Peut-être les deux. Peut-être les deux, effectivement. Oui, c'est un moment fort qui compte, parce que c'est un engagement. Et quand on s'engage, moi, j'ai toujours appris que c'était difficile de revenir sur ses engagements. Un oui, c'est oui.
Michel, on va arriver à Montpellier 68. J'avais envie de parler aussi de la traduction œcuménique de la Bible, mais peut-être qu'on fera des émissions thématiques sur ces... Là, on parle de votre vie, mais c'est vrai que c'est important, cette traduction œcuménique de la Bible, et vous en parlez très bien, et j'ai appris plein de choses. Mais comme on parle de vous, on va parler de 68. Vous arrivez à Montpellier en 68, hein, c'est bien sûr l'année que tout le monde connaît, c'est l'année de révolte. Là, vous êtes père de 4 enfants maintenant, pasteur. Comment vous vivez mai 68, que vous vivez encore à Épinal, hein. En mai, vous êtes à Épinal, vous arrivez pendant l'été à Montpellier. Quel regard vous avez sur cette révolte? Parce que c'est aussi une partie, j'aimerais bien un jour consacrer 40 minutes à Michel Fréchet, la politique, votre rapport à la politique. Parce que vous l'abordez très vite à la fin, et j'aimerais bien vous entendre dessus. Donc ça sera une autre émission. Mais mai 68, c'est quoi pour vous?
C'est vrai que c'est un mouvement... Et donc, qui était précédé, les années précédentes, il y a une antériorité qu'on voyait poindre, même dans les milieux protestants de la jeunesse. Ça, c'est sûr que dès 1962-63, il y avait une revue protestante de la jeunesse, qui s'appelait Le Semeur, qui était édité pour les étudiants, qui était une très bonne revue, mais qui, alors là, d'un seul coup, a semé un peu le désarroi, il faut bien le dire, dans les milieux traditionnels de nos églises. Et il y a eu des gens, d'ailleurs, très remarquables qui étaient là-dedans. Je pense à Jean Bobéro, par exemple, ça vous dit quelque chose peut-être, le nom, et qui était un des fervents.
Pas militant, mais enfin...
Militant, très militant. Alors, bien sûr, c'était un mouvement, on sentait bien que c'était de gauche, quand même. Et c'est vrai que ça a beaucoup troublé nos églises, ça c'est sûr. Il y avait de quoi, parce qu'on mettait en question beaucoup de choses. Et ça, moi je suis arrivé dans cette période-là, ici à Montpellier, où... Vous savez que la révolte, si j'ose dire, des étudiants, entre guillemets, est partie de la faculté de Montpellier.
Ah non, je ne savais pas.
Et oui. En mars. C'était en mars. Il y en a d'autres qui en parleraient certainement mieux que moi, puisqu'ils étaient Déjà ici, ils étaient à la faculté.
Donc
il y a eu une contestation, il y a eu des débats très très forts ici au temple de Borgias, ici même, je n'y étais pas.
Mais c'était
moi je suis arrivé au moment où c'était en octobre. Donc, il y avait 6 mois déjà qui étaient passés, mais on sentait qu'il y avait...
Encore, c'était très frais.
Très frais. Et je me souviens, pour les catéchumènes, par exemple, il y a eu une rencontre de parents avec les pasteurs. Ça a été... Moi, je suis arrivé là-dedans. Surtout, mon collègue Claude Maillard est tombé malade à ce moment-là. Donc, moi, je suis arrivé... je connaissais un peu quand même la paroisse de Montpellier, puisque j'avais été... Mais... Ça faisait déjà beaucoup d'années que j'étais pas revenu.
Et puis là, vous avez la double peine, j'allais dire. Non, c'est pas la double peine, mais non seulement il y a mai 68, mais tout de suite vous rencontrez des rapports difficiles entre la paroisse de la Chapelle et celle de Maguelone.
Oui.
Hein, voilà. Alors il y a toute une histoire. Vous refaites, vous nous réexpliquez toute cette histoire-là, que en 1880, les deux paroisses avaient 1500 familles et que même l'unité qui a été retrouvée au synode national de Lyon n'a pas vraiment calmé les choses. Qu'est-ce qui a finalement calmé
alors,
les
il y a eu quand même. Alors j'ai grandi à Maguelone, vous voyez. Donc on va en parler. Donc je suis au jour d'aujourd'hui héritier des deux, parce que au fond j'ai beaucoup reçu, puisque j'ai fait ma première communion à Maguelone. Mais c'est vrai que dans ma jeunesse, autour de mes 20 ans, j'étais à la Gerbe. Mm-hmm. Et à la Gerbe, il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, et c'était pas uniquement, parce qu'il rassemblait des jeunes des deux paroisses.
Bien sûr.
Mais c'était surtout quand même... Il y avait une dynamique dans la paroisse de Bruès qui a créé justement la GM, qui a créé le GAM. Vous avez vu, enfin, c'était pas GAM à l'époque, mais ça, c'était le centre social, etc.
Ouais, ouais.
Beaucoup de choses. Les missions étaient quelque chose qui était très... Bon. Maguelone, c'était la paroisse plutôt officielle. Des fonctionnaires, des grands fonctionnaires, préfets, etc. Alors, il y avait deux catégories de gens. Mon collègue Jean Valette, qui a été pasteur à Maguelone, disait il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont très attachés à la vie de l'Église, et puis les autres, qu'on ne voit qu'au moment des grandes cérémonies, c'est-à-dire pour un baptême, pour un mariage, pour un enterrement. Bon. À Bruès, vous avez trois catégories, vous avez ces deux catégories-là, mais au milieu, il y avait toute une population de paroissiens qui était de sensibilité, disons, évangélique, profondément évangélique. Bon, alors on peut dire, mais qui avait été beaucoup travaillé les dernières années, les dernières deux ou trois dernières décennies, par des gens comme Jean Cadier, qui était un excellent prédicateur, mais aussi, alors, pasteur en Chapal, qui était un disciple de Karl Barth, et pasteur Pellegrin, qui ont ouvert, quand même. Donc, il y avait une ouverture qui se dessinait très, très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période-là, parce que... Et du coup, je me retrouve tributaire de ces deux traditions. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés et j'en étais profondément meurtri. Parce qu'au fond, mais des liens, c'était quand même au lendemain de la guerre, c'était quand même tissé entre les deux paroisses, Maguelone et Bruès, grâce au centre social, enfin ça ne s'appelait pas le centre social, c'était le diaconat. Mmh. Et là, il s'est fait un excellent travail. Bien le rappeler, sur ce côté-là, qui a uni des gens au travail pour venir au j'aime pas beaucoup dire au secours, mais au service des moins privilégiés, disons, le plus déshérité, disons.
D'ailleurs, à ce propos, il y a, et on arrive à la fin de l'émission, donc je pense qu'on en fera une troisième pour finir, pour ne pas accélérer bêtement le propos. Il y a aussi, vous racontez de nombreuses anecdotes concernant la vie de l'Église protestante de Montpellier à cette époque. Notamment, vous nous faites revivre l'histoire de l'occupation du temple de Maguelone et de l'engagement de l'Église, où là, les deux églises se sont, enfin, l'Église était unie devant cette occupation.
Ah oui, c'était le 11 janvier 1975, je me souviens ça aussi comme c'était hier, oui. Ça, alors...
C'était des moments fédérateurs, des moments où on se retrouvait.
Oui, qui étaient d'ailleurs inattendus. Et là, je trouve que les conseils presbytéraux ont joué le jeu de manière assez admirable. Mm-hmm. Ah oui. Mm-hmm. C'était un moment très fort. Mm-hmm. Et là, vous pourriez interroger quelqu'un qui faisait partie de notre bande, si j'ose dire. C'était Michel Miaille. Oui.
Mais Michel nous
a parlé déjà.
Oui, il m'en a parlé. Michel nous fait l'honneur de mener une série d'entretiens comme celle que j'ai avec vous sur la laïcité. Mais Michel, en venant ici il y a un mois, s'est cassé le pied et il est chez sa sœur à Montauban. Oui, il est chez sa sœur à Montauban en fauteuil roulant. Voilà, il s'est cassé le pied en descendant une rue en venant nous voir. Alors j'en ai une culpabilité affreuse, Michel. C'est affreux. Mais c'est une très belle rencontre.
C'était des moments très forts.
Ça serait très amusant, très intéressant de faire une émission avec vous deux pour nous raconter cet épisode. Mais de toute façon, il y en aurait une autre, parce que ce que je voudrais dire, c'est que en 84, vous vous installez en région parisienne, vous entrez au service des relations œcuméniques. Vous allez assez vite sur cette page-là, mais j'aimerais que vous en parliez plus longuement. Vous abordez aussi le projet Apollo dans les Cévennes. Mmh. Et puis maintenant, la retraite, la CAT, tout le récit, il est tellement précis, il fourmille tellement d'anecdotes, d'événements, de rencontres, de visages. C'est vraiment toute l'histoire d'un parcours personnel, mais je tiens à le dire, ce livre, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une page d'histoire de notre ville, une page d'histoire de l'Église, dans la deuxième partie de ce XXe siècle. Et je voudrais vraiment souligner ce travail de mémoire. J'étais présomptueuse, Michel Fréchet, en pensant que nous arriverions à en faire deux émissions. Vous êtes condamné à en faire une troisième et à venir me retrouver. Parce que c'est un moment formidable et on apprend tellement de choses. Et je ne voudrais pas glisser sur tous ces événements. On reviendra sur votre vie, sur votre ministère à Montpellier. On reviendra sur tous les événements. On reviendra sur ce lieu qui était la chapelle. Et je vous propose de vous retrouver très vite derrière ce micro.
Merci
beaucoup, Michel Fréchet.
Merci à vous, Nathalie.
Merci, à très bientôt. Au revoir et à très vite pour une autre belle rencontre.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.